France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle James Conlon. Je suis né à New York en 1950 et je suis chef d'orchestre.
Bonsoir, James Conlon.
Bonsoir, madame.
Grand plaisir de vous rencontrer. Merci à vous de nous accorder ce temps. Vous, l'homme orchestre, qui partagez votre vie entre l'opéra, la musique symphonique, le répertoire choral, à peu près aux quatre coins du monde. On dit d'ailleurs que vous êtes né chef d'orchestre, mais de tout ça, on va parler, savoir ce que ça signifie que d'être né chef d'orchestre ou d'avoir cette évidence de la direction. Avant, peut-être, évoquons tout simplement l'endroit où on se retrouve. Vous nous arrivez de Turin et on se retrouve à Paris, entre les rues Magellan, Christophe Colomb, ça vous va bien ça, non?
Oui, c'est près du Théâtre Champs-Élysées, c'est un coin que j'aime beaucoup. Et en effet, j'ai fait mes débuts à Paris, avec l'Orchestre de Paris, au Théâtre Champs-Élysées, 1980.
Quand vous revenez à Paris, c'est une bonne madeleine?
Paris est toujours une bonne madeleine. J'ai l'impression, quand j'arrive, que je suis jamais parti. Ça a fait une telle grande influence sur ma vie et éventuellement sur la vie de ma famille que c'est comme la maison. Et étrangement, même avec le passage de temps, parce que maintenant ça fait 15 ans depuis que j'ai quitté l'Opéra de Paris, j'ai l'impression que c'était hier. Et même si je suis absent pendant 6 mois, 9 mois, je reviens et le temps vient vide. Il n'y a rien de temps. C'est comme hier. Alors, je me sens très, très, très à l'aise, très à la maison, pour ainsi dire.
Vous en avez pas mal des maisons, parce qu'il y a l'Allemagne aussi, on y reviendra, qui doit être une maison. À Cologne, vous avez passé du temps. Votre maison de New York, maintenant votre maison de Turin, votre maison profonde de cœur, ce serait laquelle?
Ah, c'est une bonne question. La vraie maison, c'est New York. Je suis né à New York, au centre, dans le Manhattan. J'ai grandi, j'ai fait toutes mes études et en effet, comme nous étions une grande famille, 5 enfants, moyen normal mais pas plus, nous n'avons pas voyagé. Et à l'époque, on n'a pas voyagé comme on en voit aujourd'hui. Alors j'ai littéralement passé mes premiers 20 ans presque sans sortir de la ville ou les directs environs de New York. J'ai toujours ma maison à New York, c'est toujours la même, c'est le même bâtiment depuis 42 ans, et ça c'est la maison. Mais cela dit, en Europe, je dirais que par adaptation, Paris-France, hein, et Italie en général, mais ça c'est général. Je n'ai pas une maison là, attends, je reste dans l'hôtel, j'aime beaucoup Turin, c'est une ville très élégante, j'aime beaucoup l'orchestre, mais ce n'est pas une maison. L'autre maison, maintenant, c'est Los Angeles. Et voilà, pour moi, c'est un grand surprise, parce que je n'aurais jamais imaginé d'arriver à Los Angeles quand j'étais invité par Placido Domingo au début, et je n'ai jamais imaginé que j'aimerais.
Come walking with me, I want you to see our main street. You'll know the whole town by just walking down our main street. There's the corner where the boys hang out. As each girl goes by, they rate her, whistle and try to date her later. Baby, are you going steady? And then we can stop and chat with a cop on Main Street. He made an arrest way back in 1903. He'll ask me who is the pretty stranger. How proud I'm gonna be when you walk down Main Street with me.
Pour un New-Yorkais, Los Angeles.
Ouais, je suis pas snob, dites-vous, je pense, mais peut-être que je suis, et sans le savoir. Mais c'est vrai que c'est l'autre bout du monde pour nous. Et l'image de Los Angeles est, pour certains, négative. Et pourquoi négative? La superficialité, le glamour, la partie un peu frivole de les actrices et l'acteur de Hollywood. Ça, c'est une chose. Et un peu de vérité, ça existe, c'est vrai. Négative dans le sens que ce n'est pas une vraie ville dans le sens classique. Los Angeles est très large et c'est une collection de petits centres. Il n'y a pas vraiment le cœur. Du point de vue de musique, il y a un centre. Mais ce n'est pas une ville touristique dans le sens où on va voir les monuments. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Derrière les superficialités, les choses qui sont pas intéressantes, il y a quand même une vie intellectuelle très vive. Et c'est ça qui est surprenant. Malgré le climat est merveilleux, absolu. Et c'est, pour moi, ça c'est la grande révélation. Parce que quand vous réveillez chaque matin et vous voyez le soleil, vous voyez le bleu du ciel, quand la température est plaisante, vous avez une autre attitude vers la vie. Quelqu'un m'a dit une fois, il n'y a pas de grand orchestre où il fait beau temps. C'est une espèce de blague, mais je pense que ça suggère. Quand on n'a pas besoin de faire rien, et on peut goûter la vie, on a un peu moins besoin de créer, de travailler. Quand l'hiver sont durs, il faut faire quelque chose. Et je pense que c'est relatif. Alors, Los Angeles est très plaisante de jour. Et ça, j'aime. Et le plus que je suis là, le plus que j'aime. Donc, ça, c'est la surprise. Et l'autre surprise, c'est que je n'avais pas vraiment une histoire en Californie. Je suis allé pendant les 40 ans, les 45 ans qui me précèdent maintenant, de temps en autre à la Los Angeles Philharmonic, de temps en autre à San Francisco Symphony, mais relativement peu. Je n'ai jamais imaginé. Et c'était juste au moment que j'ai quitté l'Opéra de Paris, que Placido Domingo m'a invité. Et ça, c'était pas très long après que j'ai quitté Cologne aussi, parce que pendant mes années à Paris, pendant 7 ans, j'ai fait comme une navette et aller de retour entre ces deux postes. Et j'ai dit à Placido, j'ai dit, écoute, je viens de me libérer de deux énormes responsabilités. J'ai pensé à faire moi. Il était très convaincant. Et maintenant, j'ai grande gratitude parce que c'est vraiment un cadeau. C'était un cadeau de découvrir que quelque chose que vous ne croyez pas peut être intéressante, en effet, peut être intéressante.
Alors si on revient, James Conlon, au New York des années 50, j'allais dire vous êtes un vrai Américain, c'est-à-dire que vous êtes de famille qui arrivait d'Europe en fait. Du côté de votre père, je crois que c'est l'Irlande, du côté de votre mère, c'est à la fois l'Italie, l'Allemagne.
C'est ça. Mais
qu'est-ce qu'ils sont arrivés?
Qu'est-ce que c'est aux États-Unis? Une vraie Américaine. D'abord, nous avons massacré les vrais Américains. Ça, il faut dire, historiquement. On n'a pas dit ça pendant les années 50 quand j'étais étudiant. Mais ça, c'est la vérité. Le reste, c'est immigré. C'est pour ça que je trouve horrifiante. Je ne voudrais pas trop parler de politique, mais je trouve injuste et pire de prendre une position comme dans le présent aux États-Unis contre les immigrés, parce que nous sommes un pays des immigrés, fondé par des immigrés. Si vous n'aimez pas ce fait, vous n'êtes pas américain. Et quand j'entends de certains gens, ils ne sont pas américains, non, nous sommes un pays fondé, fait ça, avec tous les bons et mal qui viennent, mais nous sommes ça. Alors, quelqu'un a fait récemment une observation sur moi. James Conlon, oui, c'est un Italien avec un nom irlandais et un passeport américain. Il y a un peu vérité en ça, parce que je me sentis profondément italien. Je ne peux pas dire dès le début de ma vie, mais à l'âge quand j'ai vraiment découvert la musique classique pour moi et l'opéra spécifiquement, ce lien est devenu beaucoup plus fort et je reconnais en ça, de la part de ma grand-mère, qui vivait comme nous, hein, nous étions très proches avec ma grand-mère, qui elle était une grand-mère parfaite italienne, parfaite. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a embrassés chaque jour, elle a donné de la pasta, de la pâte, et nous avons donné des glaces et des choses. Elle a fait exactement ce que elle était même, personne qui, je pense qu'elle a dû quitter l'école à l'âge de 12 ans, 10 ans. À l'époque, ils ont travaillé. Donc, femme simple, mais femme très, très sage et avec une très douce autorité. Donc, et tous les parents. Et c'était ça, ça c'était la partie de la famille où nous avons profité le plus parce que quand ils avaient, je ne sais pas, un mariage, tout le monde est allé, il y avait 30, 35, 40 cousins, cousines que nous n'avons pas connus tellement bien, mais on réunit. On a fait ça beaucoup moins avec les partis irlandais et allemands. Donc, je me sentais très italien assez tôt. Et ça, c'était confirmé le jour de mon premier voyage en Europe, quand j'avais 20 ans. Et comme j'ai dit que je n'ai pas voyagé pendant 20 ans, après, je n'ai jamais cessé de voyager. C'est ma vie. Le voyage, c'est ma vie. Mais le premier pas, c'était à Rome pour participer dans le festival de Spoleto, qui était un festival extraordinairement créatif, mais dans une ville, pour moi, qui est encore ça, magique. Et j'avais la chance, simplement parce que l'orchestre de Juilliard était invité pour être l'orchestre pour l'été, et il y avait un poste pour un assistant chef, alors je me suis sous-signé. Et ils m'ont pris. Et comme ça, j'avais l'occasion d'aller en Europe, parce que, autrement, je n'avais pas le moyen de le faire. Et je me rappelle le premier jour, quand nous sommes atterrés à Rome, et on a pris l'autobus à Spoleto, j'ai compris de ces choses. Et la vie m'a montré ça. Et donc, c'est pour ça que je dis, si j'ai une ville préférée, c'est Paris. Mais si j'ai un pays préféré, c'est Italie. Ce juillet passé, j'ai eu une très, très, très grande expérience que je ne vais jamais oublier, pour laquelle je suis profondément ému. J'étais invité par le maire, qui est une femme, de la petite ville où sont nés mes arrière-grands-parents. Cette année, la capitale culturelle de l'Europe, c'est Matera. Pour qui ne connaît pas, et moi je n'ai pas connu avant, c'est un must. C'est une ville des rochers, en effet. Et ils disent que c'est le troisième, en termes d'ancienneté, c'est la troisième ville de l'Occident. Jéricho, Aleppo et Matera. Ils ont invité l'orchestre, mais avec moi, parce qu'ils ont su que j'avais des racines de la Basilicata. On dit Lucana, plutôt parce que Basilicata est un terme relativement moderne. Et bien sûr, j'ai dit ça à ma femme, mes filles ont décidé de faire, vraiment parce que c'est une occasion pour mes filles de comprendre mieux leurs racines aussi. Et nous sommes allés, en effet, ensemble, et nous avons passé un jour inoubliable. Disons, de midi jusqu'à 10 heures du soir, ils ont organisé des... J'ai vu toute la ville, ils m'ont montré toute la culture, ils ont fait un concert pour moi, ils ont fait une groupe de danse pour moi. Il m'a donné un citoyenneté honoraire, alors je suis officiellement citoyen de la ville. Et j'étais très impressionné par la gentillesse et l'ouverture des gens. Ils ont connu pour ça, dans le sud. Et j'ai trouvé peut-être 15 ou 20 personnes qui portent le nom de mon grand-père, arrière-grand-père, qui était Di Grazia. Ils sont encore là, la famille est encore là, et les gens qui disent, non, je suis Di Grazia, je suis Di Grazia. Donc, ça, je me sens profondément.
Les grands entretiens de James Conlon.
J'ai lu quelque part que vous aviez un frère qui faisait du russe.
Mon frère aîné est une espèce de génie d'élan. Et il a commencé d'étudier très jeune. Il est plus grand que moi, 6 ans. Et il a commencé de parler russe à 15 ans. Et je me rappelle, j'ai vu ses livres en cyrillique et j'ai entendu sa voix quand il a parlé russe. J'étais fasciné. Et donc, le goût pour ça est né dans moi. Bien sûr, je n'avais pas l'occasion de suivre ça, mais il est très doué. Il habite en Munich, il a une femme bavaroise, mais il a passé toute sa vie comme ça.
Vous avez quelle place dans cette fratrie, James Conlon?
Nous sommes 5. Filles, 3 garçons, filles. Ma sœur aînée est la matriarche de la famille maintenant. Nous sommes après les 3... garçon, et après, il y a la cadette qui est fille aussi.
Que faisaient vos parents?
Ma mère, d'ailleurs, il faut dire qu'à l'époque, elle a fait mère de famille, qui est une chose très noble. Elle écrivait pour un très petit journal local. Elle était très douée pour ça. Je pense qu'elle enseignait un tout petit peu, mais âge de 4 ans, 5 ans, les petits. Mais avec la famille, c'était impossible. Mon père avait varié emploi, mais je dois dire que son âme n'était pas dans le travail qu'il a fait. Son âme était ailleurs. Et pourquoi je dis ça? Mon père, qui m'a beaucoup inspiré et que je vénère encore, était un grand intellectuel avec un cerveau encyclopédique d'histoire, de littérature, des religions. Il pouvait réciter Shakespeare. Grand, grand, grand intérêt dans les questions sociales. Et il a dû, pour gagner une vie, faire des choses. Il a travaillé pour le Treasury Department, une chose qui n'avait aucune importance pour lui. Une chose, il a aimé. Il a été médiateur pendant 7 ans pour la ville de New York. Donc là, il a été très fort. Mais à mon avis, c'est très dommage qu'il n'était pas professeur. Mais qu'est-ce que c'était le lien entre mes parents, qui est très, très important, qu'ils étaient jeunes idéalistes de gauche. Fin des années 30 et tôt 40. Et qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient partie d'un mouvement des catholiques qui ont voulu organiser les syndicats. Quand les personnes avaient des syndicats, ils n'existaient pas. Et ils étaient sur cette première onde d'organisation des syndicats, mais basée aussi également sur leur religion, parce qu'il n'était pas d'accord avec les marxistes pour deux choses. Il n'était pas d'accord avec la révolution et violence, et il n'était pas d'accord avec le fait qu'ils étaient athées. Et donc, c'est un groupe des catholiques qui ont voulu faire cette... Et ils se sont connus dans ce contexte, et c'est ça qui a commencé leur histoire.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the Union makes us strong.
When the Union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the Union makes us strong.
Élever James Conlon dans cette idée de valeur sociale, de respect des autres, et dans la foi catholique aussi?
Tout. D'abord, c'était encore les vieux catholiques. C'était encore très strict. Je me rappelle latin, ça a disparu en certains moments, mais je me rappelle la messe en latin. La dévotion pour le droit des hommes, les questions sociales est restée très profonde. Je suis plus pratiquant, mais je me compte comme chanceux d'avoir eu la base de l'éducation catholique. Ça reste toujours, même si on n'est pas pratiquant, ça reste quand même. Mais sur les questions sociales, beaucoup plus. Et toute ma famille. Ma famille était comme ça. Ils sont encore comme ça. Chacun différent, chacun avec son propre intuition. Il n'y a pas de musicien. Ça, c'est un fait très important pour comprendre d'où je viens. Mes frères, pas de musicien. Mes parents, non. Mes grands-parents, non. Il y a un seul où je suis sûr. Il y a un autre que je pense peut-être. Le sûr, c'est mon arrière-grand-père italien. C'est lui. Giuseppe Di Grazia. Et je sais simplement parce que c'est marqué sur le certificat de la mort, profession musicien. Et en effet, j'ai demandé une fois à ma grand-mère, elle avait une partition, elle n'avait aucune culture musicale, mais elle avait une partition. Ah, ce sont des notes. Je disais oui, ce sont des notes. Pourquoi? J'ai dit parce que mon père était en train de me renseigner sur les notes quand il est mort. Elle avait 9 ans quand il est mort. Et donc, je sais avec sûreté qu'il était musicien. Et donc, probablement, j'ai un gène atavisme qui a sauté quelques générations. Mais ce que j'apprécie beaucoup, à part le fait d'avoir connu une famille qui avait beaucoup de valeurs comme ça, que même ayant découvert la passion de la musique classique, j'ai eu toujours l'influence constante de ma famille sur autres disciplines. Et ça, je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux d'être musicien comme ça, mais j'apprécie ça. J'apprécie.
Thank you.
C'est sur cet extrait de la 9e symphonie de Dvorak par James Conlon et l'Orchestre Philharmonique de Londres que se referme ce premier épisode des Grands Entretiens avec le chef américain. Réalisation Christine Amado, prise de son Yann Fressy, mixage Romain Lenoir, attaché de production Flora Sternadel. Demain, même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.